Les voies de service, mercredi 3 octobre 2018. Bonjour, Isabelle Falardeau au micro, en compagnie aujourd'hui de Daniel Lachance.
Bonjour.
Et de Serge Bradet.
Bonjour, bonjour.
Bonjour, toujours avec Maurice Bolduc à la mise en onde. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de en fait, c'est une réponse à une chronique de Richard Martineau sur un mot qui a coûté 1,6 million de dollars, ou selon lui, au ministère de l'Éducation. Alors, c'est la réponse. Moi, j'ai choisi, vous me pardonnerez, de Ghislain Picard, donc des Premières Nations. Et puis, je vais vous parler aussi d'informations qui montrent que maintenant qu'une pétrolière avait été impliquée dans l'éviction, en fait, dans l'expulsion de résidents de près de Fort McMurray, d'une nation autochtone. Et puis, en histoire, Serge, aujourd'hui, de quoi on va parler?
Oui, bien, j'ai trouvé dans la revue Origine, c'est le magazine touristique du Québec autochtone.
Alors, ah oui?
Oui, c'est ça.
Puis vous allez nous faire voyager un petit peu en même temps que... En endroit et en même temps qu'en temps.
Oui.
Et ça, si je peux m'exprimer ici.
Il y avait, dans cette revue-là, au tout début, on parle de toutes les nations, comme les Abénakis, Algonquins, Inuits, les Huron-Wendat, tout ça. Et c'était, je trouvais ça intéressant. Ça fait une petite histoire. C'est quelques lignes sur chacun. Alors, c'est
excellent,
ça.
Merci
Ensuite,
beaucoup.
Ensuite, vous allez... Je vous parle tout ça de mes deuxièmes sujets dans la deuxième... Ouais.
Ça, c'est en première partie?
Première partie, oui. Ben, peut-être, s'il reste du temps,
ouais, j'aurai autre chose. On va revenir après ça en deuxième partie. Et à vous, Daniel?
Eh bien, je vais vous parler de musique, comme d'habitude. Donc, j'ai un instrument...
J'espère bien.
Un article qui parle d'un instrument humain.
Ah!
Donc, je vais commencer avec ça.
Ah, ben j'ai hâte de voir ça.
Et ensuite, je vais vous parler de décoration. Faut un changement.
Parfait.
Décoration intérieure.
Excellent. Merci beaucoup. Et on commence tout de suite avec l'instrument humain.
Oui, ben, c'est un article, un titre qui a attiré mon attention justement parce que c'était dans la presse plus, la section Pause Weekend du 29 septembre. L'article s'intitule tout simplement Human Instrument. Fait que ça m'a appelé.
Vous avez senti que c'était dans votre table?
Ouais. Depuis mardi, la Société des arts technologiques, SAT, accueille un ensemble vocal mené par la chanteuse Raphaëlle McKay, figure de proue de la musique thérapeutique. Human Instrument est une expérience immersive et méditative qui mêle le son à la matière. Explication. Étendu sur un pouf poire, les yeux rivés sur le dôme de la stratosphère, on attend patiemment le début de cette performance vocale qui s'annonce aussi étrange qu'étonnante. Pour l'occasion, la chanteuse anglo-montréalaise Raphaëlle McKay a fait appel à trois amis. Le chanteur d'opéra Jeffrey Salva, la chanteuse libanaise Lamia Yared et le beatboxer Olivier Mota. L'ensemble, dirigé par Isabella Salas, s'apprête à plonger dans ce projet hautement expérimental, mi-scientifique, mi-mystique. Dès les premières notes, des animations apparaissent, activées par le son. Ça, avouez que c'est pas nouveau. On le voit souvent dans des lecteurs audio images qui sont activées
c'est
par le son.
Effectivement.
Appréciez la mécanique. Les voix sont diffusées par un haut-parleur sur lequel on a déposé un bol contenant un mélange d'eau et d'alcool. Les vibrations des notes créent des ondes qui sont captées par une caméra et projetées dans le dôme. Couleurs et animations complètent le tableau visuel. Ça me rappelle un peu le début des éclairages psychédéliques où on mettait des liquides avec de l'huile devant un spot.
Oui.
Mais là, c'est activé par les sons, par la musique. Tout est parti d'une interrogation. Comment le son peut-il avoir un impact sur la matière? Sur le plan anecdotique, il y avait aussi cette sous-question. Comment résoudre les problèmes d'insomnie? Je ne vois pas le lien, mais bon, il y avait quand même cette sous-question. L'étude de la cymatique, qui s'intéresse à la visibilité des vibrations sonores, a guidé ses créateurs des temps modernes. On s'est rendu compte que la matière liquide est celle qui réagit le plus au son, nous rappelle Raphaël Maquet, formé en chant jazz à l'Université Concordia. De la même manière, notre corps est perméable au son, et ce son agit sur notre être, notre équilibre moléculaire, notre esprit. Pour la chanteuse anglo-montréalaise, cette expérience immersive est l'aboutissement de tout ce qu'elle a fait par le passé. Cette dimension spirituelle de la musique, Raphaël Maquet l'a acquise lors d'un séjour d'un an en Inde, où elle s'est initiée au chant sacré. Après avoir fondé le collectif Calmunity Vibe, qui réunit des chanteurs, musiciens, rappeurs et poètes adeptes d'improvisation, Raphaël Maquet s'est lancé dans le chant improvisé, où se multiplient sons et créations phonétiques. Concrètement, la chanteuse thérapeutique a accompagné des patients en fin de vie dans des unités de soins palliatifs. C'est une façon d'aider les gens qui sont en fin de vie à lâcher prise, à se détacher de la réalité. Les sons et la rythmique les transportent dans une autre sphère, explique-t-elle. On ne chante pas des chansons qu'ils connaissent. On explore plutôt des mélodies dans une langue inventée, céleste, ancestrale, plus profonde que notre existence. Ça les surprend, peut-être aussi qu'ils s'autorisent à se laisser traverser par quelque chose de nouveau. Raphaël Maquet se souvient d'avoir chanté pour une femme qui était sourde et qui lui tendait les bras en tournant la tête vers elle au son de sa voix. J'imagine percevait quand les même les vibrations. On dit que l'ouïe est le premier sens que l'on expérimente à la naissance et le dernier au moment de mourir. Elle évoque aussi un homme pour qui elle chantait deux fois par semaine et qui a poussé son dernier soupir au moment où elle chantait. Sa femme était très présente, mais ce jour-là, elle m'a dit « Je vais vous laisser seule avec lui. » Pendant que je chantais, il est parti. On m'a expliqué que c'est souvent lorsqu'elles sont seules que les personnes mourantes s'en vont. C'était un moment intense, mais très paisible et très beau. Même si je ne connaissais pas cet homme, c'est comme si la musique l'avait transporté dans l'au-delà, tout doucement. Maintenant que Human Instrument a été lancé, Raphaël Maquet espère faire une tournée avec cette performance hypnotique en ajoutant des compositions. Je trouve que c'est une belle combinaison de l'utilisation de la technologie et de la voix qui est tellement organique. C'est une façon de fusionner nature et culture. Donc, si ça vous intéresse, c'est à la Société des... comment j'ai dit ça tantôt au début? Société des arts technologiques. Et c'est au 1201 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, jusqu'au 6 octobre. Puis on va entendre un petit extrait de ce que ça donne, le Human Instrument.
Merci beaucoup. C'était, enfin, ça nous aurait pris les images probablement pour avoir l'expérience complète, j'imagine.
Assez particulier.
Et Serge, là, vous allez donc nous faire voyager à travers les différentes Premières Nations qui peuplent notre pays. Notre Québec.
Et l'idée m'est venue, c'est parce que la semaine dernière, je vous ai abandonné. Mis de côté, oublié, en langage populaire, floché.
Alors que nous, on ne fait jamais ça.
Non.
Toujours présent.
Oui, non, j'étais... je suis allé aux îles de la Madeleine.
Ah.
Et puis, dans la visite qu'on a faite des îles, il y avait une rencontre avec des Inuits.
Ah, ça devait être très intéressant.
Oui, j'ai d'ailleurs assisté à une cérémonie de purification. Mmh. On m'a purifié.
Bon.
Avec de la sauce.
Je trouvais que vous aviez un beau teint, justement.
Oui, hein?
Ça doit être ça.
Et j'ai trouvé, évidemment, cette revue, le magazine touristique du Québec autochtone, la saison 2018-2019, et qui donne un petit aperçu en quelques lignes de chaque nation autochtone au Québec. Alors, je commence. Les Abénakis. La nation Abénakise doit son nom au mot Wabanaki, qui signifie « terre du soleil levant ».
Ah!
Ouais. Établi à Odanak et Wulinak, ce peuple originaire des actuels États du Vermont et du New Hampshire est réputé pour ses vanneries, ses danses traditionnelles, ses masques et ses totems. Ensuite, les Algonquins. Installés dans l'ouest du Québec, les Anishinaabeg sont restés très proches de leurs racines et de leur mode de vie ancestral. Ils sont encore une majorité à utiliser leur langue algonquine maternelle dans laquelle leur nom signifie, leur nom signifie vrai homme.
Ou vraie personne peut-être.
C'est vrai homme, c'est vrai homme, là, c'est vrai homme. Oui. Vraie personne, vrai être humain, vrai.
Excusez-moi, allez-y. Ouais.
Ensuite, les Atikameks, attachés à un développement économique respectueux des traditions et de l'environnement, les Atikameks sont passés maîtres dans le travail de l'écorce et la confection, entre autres, des canaux.
OK, ça vient d'eux, ça.
Oui, oui. Leur nom d'origine signifie « poisson blanc ».
Donc, le canot d'écorce, c'est
ça,
le boulot.
Parce que c'est les poissons qui voyageaient en c'est ça, le canot.
Les Cris. Les Cris, deuxième nation la plus populeuse du Québec, ça je ne savais pas, forment une grande communauté qui, au même titre que les Inuits, fut au centre des négociations en 1975 avec les gouvernements fédéral et provincial pour l'exploitation hydroélectrique de leur région. Je pense que c'est pas la paix des Braves.
C'est pas avec les Cris.
Ben, c'était plus tard, c'était peut-être avec les Cris, oui, mais c'était plus tard, c'était en l'année 2002.
Oui, c'est en 2002, effectivement, déjà fait, mais c'est peut-être... Les suites
Alors, c'était une étape décisive pour la poursuite de leur autonomie. Les Hurons-Wendat, c'est à Wendake, à proximité de Québec, que la seule communauté Huron-Wendat reconnue dans tout le Canada est établie près du site de leur ancienne cité de Stadacone. Réputée pour son dynamisme et son sens du commerce, la nation Huron-Wendat met en valeur son patrimoine culturel via de nombreux attraits touristiques. Les Inuits, en langue Inuktitut, le sens du mot Inuit, les personnes, renvoient à un temps où les habitants de l'Arctique pensaient qu'ils étaient seuls sur la Terre.
Les Européens pensaient ça, aussi.
Les Inuits du Québec peuplent 14 villages dans l'immensité du Grand Nord. Leur mode de vie et leur art, notamment la sculpture, sont renommés dans le monde entier.
C'est vrai.
Les Malécites, Wolust-Aguga-Wilks, le peuple de la Belle Rivière. À présent, à Kakuna, dans la rive sud du Saint-Laurent, où l'on retrouve l'édifice administratif des Malécites de Vigée, dans un milieu naturel d'exception, pour l'observation des oiseaux migrateurs et des mammifères marins, tous les Malécites du Québec vivent hors réserve. Ils ne sont pas dans des réserves. Les Micmacs, au 16e siècle, ce sont les Micmacs qui accueillent les premiers arrivants européens sur les côtes de la Gaspésie. L'aide de ce peuple de pêcheurs et de navigateurs fut précieuse aux explorateurs et aux marchands. Une histoire et une identité forte que les Micmacs mettent en valeur à travers différents sites et activités comme pêche au saumon. Il m'en reste trois. Les Mohawks. De la puissante nation que formaient les Mohawks, membres de la Confédération des Cinq Nations iroquoises, il reste un attachement fort aux traditions empreintes de spiritualité de ce peuple sédentaire. Les Mohawks, nation la plus populeuse du Québec, ont su préserver leurs valeurs et leurs choix malgré l'influence des villes voisines. Les Innus, appelés montagnais par les premiers explorateurs français qui désignaient ainsi les habitants des petites montagnes de la côte nord, les Innus forment la troisième nation la plus populeuse du Québec, avec 16 820 membres. Dans leur langue...
Quand même.
Oui, dans leur langue, l'Innu Aïmoun, le terme Innu signifie être humain. Et enfin, les derniers, les Naskapis. Alors, la nation Naskapi est celle de grands connaisseurs d'un vaste territoire boréal. Les Naskapi continuent à faire valoir leur savoir-faire traditionnel à travers des activités de chasse, de pêche et de découverte touristique de la toundra et de la taïga. Dans leur artisanat, le caribou occupe une place très importante.
Très intéressant. Merci beaucoup, Serge.
L'éclat de tes yeux, le désordre de tes cheveux, l'odeur de ton corps, ton visage quand tu dors, ta peau faite de soie qui glisse sous mes doigts, les élans de paresse où s'endorment nos caresses. Oh, j'aime bien, bien le matin. Des plans aujourd'hui, je pensais te garder au lit. S'il n'y a rien qui t'appelle, je resterai bien dans tes ailes. Il fait chaud, il fait bon, je me sens à la maison. J'aime bien, bien le matin. je veux plus te quitter, t'es mon chandail préféré. Oh, j'aime bien, 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 bien. J'aime bien.
Samuel nous chantait le matin.
Non, je connaissais pas ça, Samuel. On a vraiment beaucoup d'artistes très, très vivants au Québec. C'est très plaisant. Et là, ben moi, je vous ai vendu la mèche de mes deux articles, alors que normalement, j'aurais dû attendre de garder le suspense jusqu'en deuxième partie. Mais en première partie de l'émission, je vous parle donc de cette expulsion. La pétrolière Syncrude impliquée dans l'expulsion d'une communauté autochtone de Fort McMurray. C'est un article que j'ai pris sur le site de Radio-Canada Espace Autochtone et qui a été publié le jeudi 27 septembre. Alors, selon l'étude commandée par les Métis de Fort McMurray, l'entreprise Syncrude a clairement formulé la demande d'expulsion de la communauté de Moccasin Flats à Fort McMurray en Alberta. Là, je fais une petite parenthèse. Quand on fait une recherche pour Moccasin Flats sur les internets, comme on dit, il y a une série qui a commencé en 2003 et qui semble pas encore terminée, qui s'appelle Moccasin Flats. Et j'ai pas regardé la série. Alors, si jamais il y en a qui l'ont écouté, peut-être que... Je sais pas si ça parle, autrement dit, là, de cette expulsion-là. Parce que Moccasin Flats, je pense que c'est une nation métisse qui est basée en Colombie-Britannique. D'après ce que j'ai pu voir. Mais bref, on ne parle pas de ça, mais on parle bien là, de Fort McMurray. Alors, c'est à la fin des années 70, au moins 14 familles autochtones ont été expulsées de Moccasin Flats sur les berges des rivières Athabasca et Snai pour faire de la place à des constructions de la ville. Par le passé, Syncrude a nié son implication dans ces événements, mais dans des entrevues sur les ondes de CBC, la pétrolière pointait la ville comme responsable. Et dans des entrevues sur les ondes de la CBC, la pétrolière pointait plutôt la ville comme responsable de cette éviction. Mais selon le chercheur Hereward Longley, l'étude indique que la municipalité et l'entreprise ont joué un rôle crucial. C'est Northward Developments, qui est une société qui appartient à Syncrude, qui a recommandé l'éviction. Le chercheur tient cependant à souligner que des documents restent manquants pour déterminer plus précisément le rôle de Syncrude. Depuis des années, il y a beaucoup de choses vraies dans ce que les gens ont dit. C'est... Bill Lotit, le directeur général de l'organisme McMurray Métis, qui l'a affirmé. Les résidents avaient dû faire place à la construction de projets d'infrastructures, dont un grand immeuble pour les employés de Syncrude. Le journal Fort McMurray Today rapporte que le 22 janvier 1979, la ville de Fort McMurray a démoli les bâtiments de la communauté après avoir relogé 6 familles. Les dernières familles de Moccasin Flats ont été expulsées le 14 mai 1981. En mai 1975, la province envoie une lettre qui réprimande Northward Developments pour la demande d'éviction. C'est Bob Bogle, qui était alors membre du gouvernement progressiste conservateur de Peter Lougheed, qui écrivait « Cela devrait être compris par tous qu'en tant que ministre provincial responsable des affaires autochtones, je ne soutiens pas ces évictions forcées des habitants de la zone proche de la rivière Snai. » Les chercheurs ont aussi trouvé un ancien projet d'accord de développement entre Northward Developments et Fort McMurray, qui stipulait qu'un permis de construction de route serait vendu à la firme et que les résidents allaient être délogés. La ville indiquait cependant qu'elle aiderait à réinstaller les résidents proches de la rivière Snai au moyen de programmes provinciaux. En juillet, la municipalité a demandé une enquête provinciale qui aurait le pouvoir de citer des personnes à comparaître et de forcer le dépôt de documents afin d'obtenir une image complète de ce qui s'est passé. Il faut savoir que, selon plusieurs, ces évictions-là ont eu des... Parce que là, on parle de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps, mais apparemment, ça continue d'avoir des impacts sur des impacts négatifs sur la vie des Métis de Fort McMurray. Alors, j'ai cru comprendre que ça faisait longtemps qu'on demandait une enquête, et là, ça a finalement abouti. En tout cas... C'est dans les médias, donc il va probablement se passer quelque chose. Alors, selon Bill Lotit, que je citais plus haut, les Métis de Fort McMurray ne souhaitent pas d'enquête. En fait, ouais, c'est ça. Ils ne demandent pas d'enquête, ils demandent, parce qu'ils trouvent que ça va être trop long et improductif, ils préféreraient voir ce qu'ils appellent, ce que lui appelle une réconciliation. Donc, bref, des gestes concrets pour réparer ce qui s'est passé. Des recommandations sont proposées dans l'étude. Parmi celles-ci, on peut lire une demande de compensation financière pour les personnes expulsées, celle d'un monument pour rappeler l'événement ou encore la construction d'un foyer pour sans-abri. C'est donc un article qui est d'après un texte de David Thurton que vous pouvez, qui probablement...
Pardon.
Non, mais parce que quand ça dit d'après un texte, c'est probablement qu'il y a eu un reportage sur le site de Radio-Canada, mais je ne l'ai pas trouvé, mais d'après moi, il existe quelque part. Alors voilà, c'est on espère qu'effectivement qu'il y aura compensation parce que ça fait des dizaines d'années que ces gens-là ont perdu leur toit. Alors Serge, ça va être encore à vous. De quoi vous allez nous parler maintenant?
Ah, dans la revue L'Histoire de juin 2018, il y avait deux articles excellents, moi qui me plaisait beaucoup, dont un, le deuxième sera dans la deuxième partie, mais le premier c'est « Superman, l'homme de demain ».
L'homme de demain.
Oui. Ah, j'ai vraiment. Par William Blanc.
Peut-être qu'ils vont nous transformer en Superman, c'est ça? J'ai hâte de voir ça.
Ben, c'est-à-dire que l'homme de demain, par rapport à la date de sa création. Né en 1938, Superman, l'extraterrestre venu de Krypton, a choisi les États-Unis comme patrie d'adoption. Et ce n'est pas un hasard. Considéré par beaucoup comme le premier des super-héros, Superman apparaît il y a 80 ans, quand même. Hein? Dans les pages du numéro d'Action Comics, publié à New York en juin 1938. Loin d'être un simple personnage fantaisiste, le surhomme à la cape rouge, capable de voler de gratte-ciel en gratte-ciel, exprime, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les inquiétudes et les espoirs d'une partie de la population américaine urbaine, populaire et issue de l'immigration récente. En 1938, les Comics, publication bon marché née après le krach de Wall Street d'octobre 1929, sont souvent écrits et dessinés par des auteurs juifs qui peinent à trouver du travail dans des médias plus prestigieux.
Ah oui, je savais pas ça. C'est toujours vraiment intéressant de revoir les choses dans leur contexte. Ouais.
À l'image de ces deux créateurs, Jerry Siegel et Joe Shuster, dont les parents askénazes ont fui l'Europe en proie à l'antisémitisme pour s'installer aux États-Unis, Superman est un migrant, il vient de Krypton. Un orphelin venu de la planète Krypton, détruite par une catastrophe, puis recueilli par une famille américaine.
C'est vrai que j'avais jamais vu ce parallèle-là, mais oui, c'est intéressant.
L'enfance de Superman ressemble à celle de Moïse, on va même plus loin encore, et plusieurs éléments font référence à l'Ancien Testament. Cité pour la première fois en 1939, son nom extraterrestre, Kal-El, K-A-L, trait d'union E-L, comporte ainsi le suffixe El, signifiant Dieu en hébreu.
C'est vrai que ça m'avait toujours intrigué, parce qu'effectivement, El, ça veut dire Dieu.
Que l'on retrouve dans des patronymes bibliques comme Israël, Gabriel, Daniel. En février 1942, dans le numéro 45 d'Action Comics, Superman soulève à bout de bras une réplique de l'Arche de Noé après l'avoir remplie d'animaux. C'est lui qui aurait sauvé les animaux, sauvé Noé
là,
du
déluge. Là, tout s'explique. Mais il semble que je crois plus à ça que à l'histoire, c'est ça.
Cette judéité en filigrane du surhomme de Krypton est vite bogardée dans des publications antisémites. En février 1940, alors que les États-Unis ne sont pas encore en guerre, le tandem Siegel-Shuster met en scène son héros en train d'arrêter Adolf Hitler et Joseph Staline, rien de moins, pour les faire juger devant la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU.
De l'ONU oui.
Les auteurs sont attaqués dans, évidemment, on l'imagine bien, dans Das Schwarzkorps, l'organe officiel des SS, dans un article qui demande à ses lecteurs d'ignorer les fantaisies de Jerry Israel Siegel. Mais Superman n'est pas seulement un moyen pour deux jeunes Américains d'origine juive de prendre une revanche symbolique sur le totalitarisme et le racisme. Leur héros est aussi l'expression d'une période, l'entre-deux-guerres, où l'on croyait encore largement que le futur amènerait un monde meilleur. Parce que la Première Guerre mondiale, on a dit c'est la der des der, c'est la dernière des dernières, il n'y en aura pas d'autres.
Si on avait su, Colin, que ça aurait... L'espoir aurait diminué un peu. Mm-hmm.
Un an après la création de Superman et dans la foulée de l'élan impulsé par le New Deal de Franklin Roosevelt pour aider l'Amérique à se relever du krach de 29, l'Exposition universelle de New York ambitionne de montrer aux visiteurs le monde de demain. Profitant de cette atmosphère optimiste qui voit également se tenir la première convention mondiale de science-fiction à Manhattan, l'éditeur de Superman publie un numéro spécial consacré au héros de Krypton, rebaptisé pour l'occasion l'Homme de demain. Un surnom qui ne le quittera plus, venu d'une planète plus avancée, Kal-El incarne en effet, pour Segel et Shuster, ce que sera l'être humain dans un futur lointain. Capable de prouesses mentales et physiques hors du commun, pouvant voler et soulever des voitures, nos descendants seront également, espèrent-ils, dotés d'un sens inhérent de la justice et œuvreront toujours pour le bien commun. Ouais, mais on dommage que ce soit... Que ce ne soit pas réalisé. Hein. En tant que patrie d'adoption de Superman, les États-Unis sont donc déjà entrés dans le monde de demain. C'est évident. Et donc, ils se sont mis en... Et ont le devoir de répandre ce futur radieux à l'ensemble de la planète. Alors, dès son apparition, la popularité de l'Homme de Krypton ne se dément pas. Les comic books mensuels qui lui sont consacrés atteignent régulièrement le million d'exemplaires.
Hein. Wow, pour l'époque. En 1938, hein,
Oui. Wow. Et ses aventures sont vite adaptées à la radio, au cinéma, dès 1941, puis à la télévision à partir de 1952. On rappelle en noir et blanc, là, dans les années... je me rappelle avoir vu Superman.
Ouais.
Il suscite la création d'autres surhumains de comics construits souvent sur des modèles similaires. Wonder Woman, apparaît en 1940, vient d'une société plus avancée. De pareils propos finissent par susciter une vive opposition. Non, je me suis trompé. Attendez, Wonder Woman, c'est ça. Wonder Woman, apparue en 1940, vient d'une société plus avancée, gouvernée par un matriarcat qui annonce le monde plus ouvert du futur. Alors, de pareils propos finissent par susciter une vive opposition après-guerre. Et la plupart des super-héros connaissent une éclipse en plein macartisme.
Mais c'est drôle, je pensais que c'était un Canadien qui avait dessiné Superman.
Non.
Il y avait des publicités à un moment donné sur...
Moi, je me souviens pas de ça, mais en tout cas, c'est très intéressant parce que j'avais jamais vu le parallèle, mais c'est vrai avec Moïse, parce qu'il dans un panier sur un fleuve, mais dans un petit vaisseau dans l'espace pour le sauver. Alors, il y a quelque chose. Merci beaucoup, Serge. C'est comme ça que ça se termine pour la première partie de l'émission. On vous revient après une courte pause. Merci beaucoup. Alors, c'est reparti pour une autre demi-heure. En deuxième partie de l'émission, moi, je vais vous parler, donc, tel que promis, de cette réponse au texte de Richard Martineau. Je vais vous mettre en contexte, pas de souci, si vous n'aviez pas lu l'article original. Et vous, Daniel, vous allez nous parler de...
Je vais vous parler de Florent Volant.
Florent Volant, son nouvel album.
Absolument.
Ah, ça va vraiment être chouette. Mm-hmm. Excellent. Puis de votre côté, Serge?
Moi, eh bien, je continue dans les origines de... Comment sont nées les soucoupes volantes?
ça va encore être très, très intéressant. Merci
Donc,
beaucoup.
On sait que ça existe, pour vrai.
Alors, donc c'est ça. Premièrement, comme je vous ai dit, c'est une chronique de Richard Martineau. Moi, j'avais commencé à lire. Moi, je vous avoue que, sans vouloir faire de polémique ici, là, Richard Martineau, je commence toujours à lire la chronique. Puis à partir du moment où ça commence trop à me mettre en colère, j'arrête. Donc des fois, je lis au complet. Puis là, c'est sûr que c'est parce que le problème, c'est qu'il s'est cité dans l'article qui lui répond. Il fait pas de mise en contexte, il fait pas de recherche, il se base sur une information qui le met en colère, puis là, ben, il déverse le fruit de sa colère.
Alors, comme tout le monde fait sur les réseaux sociaux.
Ben, parce que c'est une chronique, alors il n'y a pas besoin de... Il ne sent pas le besoin de vérifier. Mais bref, c'est ça, c'est qu'il y a eu des manuels d'histoire qui ont été retournés pour, à la réimpression parce qu'il y avait le mot amérindien, puis il fallait le corriger, puis ça a coûté 1,6 million de dollars. Et ce qui fâche M. Martineau, c'est que pendant ce temps-là, on a besoin d'argent dans plein d'autres endroits plus importants, selon lui. Alors, il trouve que, franchement, il termine sa chronique en disant « Si c'était écrit peau rouge, je comprendrais, mais je ne vois pas en quoi le mot amérindien est si dérogatoire. » Alors ça, c'est pour M. Martineau. Et donc Ghislain Picard, le chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, lui a répondu sur son blog du Huffington Post « Non, les Autochtones ne sont pas des Amérindiens. » Alors, il nous dit donc « Cher M. Martineau, encore une fois, vous tombez à bras raccourcis sur les peuples autochtones, parce que c'est pas la première fois que M. Martineau se fâche, et les leaders des Premières Nations. Dans votre texte, un mot à 1,6 million, publié le 19 septembre, vous blâmez gratuitement et sans même avoir vérifié les faits ceux que vous qualifiez de tenants de la rectitude politique. » Et oui, parce que donc c'est ça. Lui, le texte original de M. Martineau, c'était le 19 septembre, si vous voulez aller vérifier sur le site du Journal de Montréal. Et sinon, la réponse, c'était le 26 septembre, donc sur le blog du Huffington. C'est difficile à dire, hein?
Huffington Post.
Merci beaucoup, Daniel. Votre texte s'appuie sur le courriel d'un lecteur qui affirme que des manuels scolaires ont été refaits uniquement pour remplacer le mot amérindien par celui de Première Nation. Cette affirmation est en partie fausse, puisque la réimpression des manuels scolaires contenait plusieurs autres corrections que celles mentionnées. Dans les faits, le ministère de l'Éducation reconnaît lui-même avoir agi trop rapidement en transmettant des versions non finales et non officielles des programmes de secondaire 3 et 4 aux maisons d'édition, et ce, avant même la fin d'un comité consultatif impliquant les Premières Nations. Les modifications apportées au programme de secondaire 3 et 4 vont beaucoup plus loin que la simple terminologie. Entre autres, il y a un texte sur la connaissance historique sur les pensionnats, alors qu'autrefois, elle n'était qu'une précision historique à l'intérieur d'une autre connaissance. Donc, bref, c'était un petit entrefilet dans un gros article, tandis que là, il y a un article au complet, selon ce que je comprends, sur les pensionnats. Donc ça, c'est quand même un détail qui n'est pas négligeable. Personne aujourd'hui ne conteste, sauf peut-être vous, dit-il à Richard Martineau, que l'utilisation du terme « indien » est erronée et renvoie à une notion colonialiste. De même, le terme « amérindien » n'est pas plus acceptable puisqu'il signifie littéralement « indien d'Amérique ». Les Premières Nations ne sont pas des Indiens, donc pas plus des Indiens d'Amérique. Ne vous en déplaise, une société qui se respecte ne peut prendre à la légère les différences terminologiques quand on parle de peuple et de nation. Je suis convaincue que les Québécois n'accepteraient pas que des manuels scolaires utilisent le terme « canadien-français » ou autre terminologie désuète. Nous sommes en 2018, et le Québec, tout comme le Canada, a depuis longtemps reconnu que les Autochtones forment des peuples. Les Premières Nations ont droit au respect, au premier chef dans les livres qui servent à instruire les jeunes qui fréquentent nos écoles. De plus, permettez-moi de vous signaler que le travail d'édition de ces manuels a été réalisé avec l'appui d'un comité consultatif autochtone, mentionné plus haut, qui a fait d'innombrables suggestions de contenu pour l'ensemble des 8 périodes historiques des 2 programmes. Il s'agit d'une excellente initiative qui vise justement à mieux rendre compte de l'histoire et de la réalité des peuples autochtones au Canada. Alors, si on a eu la bonne idée de faire un comité consultatif, ça serait la moindre des choses qu'on prenne en compte les résultats.
Ouais.
Oui, c'est ça. Vous vous demandez en quoi le mot amérindien est si dérogatoire? Si vous voulez le savoir, je vous invite à nouveau à venir nous rencontrer lors d'une prochaine rencontre de la table des chefs des Premières Nations. Une petite leçon d'histoire ne vous ferait sûrement pas de mal. Alors, on va à vous, Daniel.
Oui, ben parlant d'Autochtones,
on
va parler d'un artiste.
Vous allez nous parler de Florent Volant.
Qu'on connaît depuis longtemps. Donc, c'est un article paru dans la Presse Plus le 29 septembre dans la section Art. En Innu, Mishta Mishkenu signifie la grande route. C'est aussi le titre du nouveau disque de Florent Volant qui est un hommage à la route 138, hein? La plus vieille route du Canada. Et des bouts, ça paraît, dit-il. La route 138, c'est le chemin qui longe le fleuve sur sa rive nord que l'ex-Cachetine a utilisé de toutes les manières et dans toutes les conditions depuis sa jeunesse. Florent Volant est né au Labrador, mais sa famille a été déplacée sur la côte nord, sur la réserve de Malioténam, près de cette île, alors qu'il était tout jeune. La 138 a pris un sens quand j'ai commencé à faire de la musique, dit ce nomade dans l'âme qui parcourt le territoire avec sa guitare depuis l'âge de 16 ans. Disons que Malieu-Ténam est mon port d'attache et que Montréal est mon camp de base. L'auteur-compositeur-interprète maîtrise l'art du déplacement. C'est ce dont il parle sur ce nouveau disque qui traite d'attente, d'éloignement et de quête. Mon équilibre est dans la route. Toute sa vie, il est allé à la rencontre des différentes communautés autochtones. J'allais dire amérindien, mais il faut pas. Et il raconte ses histoires dans des chansons écrites en Innu. Florent Volant vient de terminer un projet avec l'Orchestre symphonique de Montréal et Kent Nagano, une présentation de l'opéra Chacapesh, le périple du Fripon, écrit par l'auteur Cree Thompson Highway. Florent Volant était un des trois narrateurs de ce spectacle qui a été présenté dans différentes communautés autochtones dans le nord du Québec. Le jour de notre rencontre, il revenait justement de Malieu-Ténam où la tournée venait de prendre fin. C'était tellement beau et émouvant, une vraie rencontre, dit Florent Volant qui estime que toute la démarche de l'OSM a été exemplaire. C'est un coup de maître, les Autochtones ont été impliqués dès le début. Et c'est ce qui doit se faire et non juste demander un Indian approved à la fin.
Je ne sais pas s'il fait allusion à quelque chose en particulier.
D'après vous. Florent Volant fait allusion, bien sûr, au débat sur la pièce Kanata, oui, qui a eu lieu pendant l'été. Alors que le Théâtre du Soleil d'Ariane Mnouchkine a annoncé que la pièce serait montée quand même, mais en intégrant la polémique, il estime que nous sommes loin de l'après-Kanata. On est encore dedans et ça va prendre un bout de temps avant de s'en sortir. Ce n'est pas juste Kanata, c'est tout le reste. Ça fait longtemps qu'on s'approprie notre culture. Moi, ça me choque qu'on nous tasse en disant « on va la raconter votre histoire ». En même temps, nous, on ne l'a jamais raconté.
Ben, il y a un peu de ça, c'est ça
l'affaire.
Ouais,
donc, on lui fait remarquer que c'est quand même ce qu'il a fait au cours de sa carrière, un lien entre les deux cultures. Moi, j'ai servi à dire « regardez, on est là, on est vivant », dit-il en admettant qu'il fait partie de ceux qui ont ouvert la trail. Il regarde d'ailleurs avec fierté la nouvelle génération de jeunes créateurs autochtones qui, aujourd'hui, n'ont pas peur de prendre la parole et qui utilisent brillamment les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu un changement quand même. Au début, quand Kachtine est arrivé, pour nous, c'était nouveau. Puis on...
C'est ça qui a mis la musique. En fait, ça nous a fait réaliser que ces gens-là faisaient de la musique et de la bonne musique.
Effectivement.
Et c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas... Donc là, ça change beaucoup. Ça permet aux jeunes chanteurs qui sont isolés de transmettre leur musique partout.
Effectivement.
À travers le Québec et même à travers le monde. Donc oui, ça a changé beaucoup les choses.
Donc, Florent Volant va continuer à arpenter la route 138 et plein d'autres en Amérique et en Europe et à faire de la musique, car c'est pour ça qu'il est sur Terre. À celui-ci, il souhaite de devenir un classique. Je l'aime beaucoup. Je voudrais qu'il brille, qu'on se le partage, qu'on l'écoute. A-t-il l'impression d'être rendu au sommet de son art? Je ne suis pas rendu, mais je suis quelque part. Et on va écouter un extrait de son nouvel album, Kanata. Thank you.
tutte. Ci mescana, ci canasce, ci nino, ci catute, ci mescana, ci canasce, te perde o assiuia, chas. Tatnipa, umwe tishinako, tisiwa, abu titendima, tiwa betima, tiwa pumko, inote mami zato, tinino. Tu mescana, tu canache, tu nino, tu catute, tu mescana, tu canache, tu mescana.
Florent Volant, Chin Inou, tiré de l'album Mishta Mishkanou.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.
En beauté, ça finit en beauté.
Oui, alors c'est, j'imagine que vous allez nous parler d'OVNI.
Ben oui, de soucoupe volante. D'abord, un gros merci à Maurice, parce que moi j'arrive, j'en vois pas de choix musical. Alors, j'arrive à la dernière minute, puis je dis ah, tu trouves quelque chose comme ça, puis il dit oui, oui, oui.
On peut
ça.
Toujours compter sur Maurice.
Oui, 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 oui. Alors, c'est un article que j'ai trouvé dans la revue L'Histoire de juin 2018. États-Unis, 1947-1997, comment sont nées les soucoupes volantes? Est-ce que le nom de Kenneth Arnold vous dit quelque chose?
Pas du tout, non.
Bon. Moi non plus.
Roswell, ça vous dit quelque chose?
Ah ben oui,
c'est ça,
ouais,
oui. Okay. Alors, il faut savoir que M. Arnold a signalé, c'est lui qui a vraiment été le premier à parler des soucoupes volantes, mais en 47, puis Roswell est arrivé un peu après. Alors, ça s'est comme perdu un peu dans le... dans le temps. À l'été 1947, Kenneth Arnold raconte avoir vu d'étranges engins dans le ciel du Mont Rainier, dans l'État de Washington. Un événement local qui suscitera controverse et réécriture. Comment l'affaire Kenneth Arnold s'est-elle construite? Au début de l'été 47, un pilote privé, Kenneth Arnold, signale avoir aperçu dans le ciel du nord-ouest des États-Unis des engins mystérieux dont il compare le vol à celui de soucoupes. La presse, puis le public, se passionnent pour le sujet. Au fil des jours, les expressions « flying disc » et « flying saucer » s'imposent dans les médias pour décrire les mystérieux engins. Les soucoupes volantes sont nées.
Ah, donc c'est vraiment M. Arnold qu'on appelle ça comme ça encore aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Ben, enfin...
ouais. Qu'est-ce qui a rendu cette histoire possible? Bon. Tour à tour ont été invoqués le climat de guerre froide, parce qu'on pensait que les Américains et les Russes avaient récupéré la technologie allemande qui était très avancée. Alors, on pensait qu'ils avaient découvert, que les Allemands avaient trouvé avaient fabriqué des appareils très avancés et tout ça.
Et on avait peur à une invasion
ouais,
russe,
absolument,
en fait,
aussi,
c'est
oui.
Ça.
L'influence de la science-fiction aussi, ben avec Superman, entre autres. La fascination pour les théories du complot, la fameuse affaire de Roswell, inexistante en 1947. Que faut-il penser de ces explications? Ne parvenant pas à trouver d'explication à ce qu'il a vu, Arnold va trouver le 25 juin 1947 la rédaction de l'East Oregonian, basée à Pendleton, dans le nord-est de l'Oregon. Il rencontre notamment Bill Beckett. En compagnie d'un des rédacteurs en chef du journal, Nolan Skiff, Beckett écoute le récit du pilote. Celui-ci décrit une série d'engins étranges filant à plus de deux fois la vitesse du son, quand même, au-dessus du Mont Rainier. Le Mont Rainier, qui est un volcan garni d'un cône de neige éternel situé dans la chaîne des Cascades dans l'État de Washington. Ils se dirigeaient vers le mont Adams au sud-est. Leur forme ne rappelait aucun appareil connu, arrondi à l'avant, triangulaire à l'arrière, plat comme des soucoupes qui auraient rebondi sur les couches atmosphériques. Le pilote semble avoir la tête sur les épaules. Après avoir discuté de son observation avec des confrères, il a essayé la veille de contacter le bureau local du FBI, qui était fermé, avant de venir voir les journalistes. Donc, un bon citoyen quand même qui va au FBI avant d'aller aux journalistes.
Il faisait son devoir de citoyen.
Bill Beckett case un petit article dans l'édition du jour, qui est en bouclage, il reste un petit coin à remplir, et par pure habitude, adresse une courte dépêche sur le câble régional de l'Associated Press, l'agence de presse dont son journal est membre. Pourquoi Arnold tient-il tant à rapporter les faits? Comme de très nombreux autres Américains à cette époque, il est un fanat d'aviation. Les milieux de pilotes se regorgent d'histoires sur les avions testés en secret par l'armée ou sur les missiles guidés. En bon patriote, il s'interroge aussi sur l'éventualité d'une origine soviétique de ces objets. Les journalistes sont sur la même ligne. Contrairement à beaucoup de récits qui circulent aujourd'hui, ils n'ont pas décidé délibérément de fabriquer un fait divers. Mais en revenant de déjeuner, Bill Beckett découvre que sa dépêche a été relayée sur le câble national de l'Associated Press par le bureau régional de Portland. La petite rédaction est assiégée de téléx et d'appels téléphoniques depuis les grandes villes, Chicago, Denver, New York souhaitant des détails supplémentaires. Alors Beckett retourne voir Arnold dans sa chambre d'hôtel et transmet un récit enrichi à la Associated Press de Portland. La radio ayant commencé à relayer l'information le soir même, d'autres témoins se signalent rapidement et les journalistes appellent le Pentagone et les scientifiques ou les pasteurs.
Que c'était peut-être l'œuvre de Dieu.
Oui, ben oui. Pour en savoir plus, le lendemain, quasiment tous les quotidiens des États-Unis, à l'exception notable du New York Times, très sérieux, consacrent un article et souvent leur une au mystérieux engin aperçu par Arnold. Au rebours de tout ce qu'on n'en cesse de raconter depuis les premières études sur ce sujet paru à partir de 1949, le public américain n'a pas réagi avec crédulité à l'annonce des apparitions de soucoupes volantes. Au contraire, sa réaction a été critique. Pendant l'été 1947, les soucoupes constituent la dernière plaisanterie à la mode. Des groupes de musique en font des chansons. Les enfants dans les colonies de vacances s'envoient des assiettes en carton à la figure en criant « saucer », soucoupe en anglais. Toute l'Amérique s'amuse de cette nouvelle lubie en s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles les autres y croient. En 1947, les soucoupes ne sont pas une croyance populaire, mais bien une incroyance populaire.
Merci beaucoup, Serge. On est en onde. J'étais en train de me demander si cet instrumental-là n'était pas présent dans Cinéma Paradiso. Mais si jamais vous le savez, écrivez-nous. Merci beaucoup. Et puis, maintenant, on va retourner en musique, justement, avec Daniel. Ben,
je vous ai dit tantôt, au début de l'émission, que je parlerais de décoration intérieure.
Vous ne l'aviez promis, c'est vrai. Alors, j'ai vraiment hâte de voir le lien avec la musique.
Oui, c'est un article qui a attiré mon attention un peu parce qu'on parle d'instruments pour donner le ton. Les instruments de musique sont de beaux objets qui peuvent donner la note qu'il faut pour rythmer un décor. Plein de jeux de mots dans une petite phrase comme ça.
Mais oui, parce que le ton, en anglais aussi, ça peut être un ton de couleur ou de musique.
Rythmer le décor, voilà. Or, il faut bien doser sa partition, comme le souligne la designer Véronique Lantier. D'emblée, attention aux fausses notes. Des instruments de musique mal disposés peuvent créer une vraie cacophonie visuelle. Faudrait pas qu'elle visite mon sous-sol, ça serait...
Avez-vous une collection de guitares, ben, celle de Jimi Hendrix?
Non, pas des guitares de collection, non. Mais j'en ai plusieurs, une batterie, un clavier, plein de trucs qui traînent partout. C'est pas très décoratif.
Il faudrait faire venir une décoratrice.
Un travers dans lequel on peut vite tomber si l'on souhaite notamment conserver ou intégrer un piano, qui demeure un grand classique. Certains s'en sortent avec brio, comme on peut le constater dans ce condo du centre-ville montréalais. L'occupante des lieux a su tirer plein parti de l'élégance d'un piano à queue qui a été repeint en blanc. L'espace est grand, ça fait très chic, on retrouve les arrondis et la forme dans le mobilier, commente Mme Lantier. Alors, si on a le loisir d'avoir un très grand appartement et les moyens d'avoir un piano à queue...
Oui, parce que s'il y avait un piano à queue dans mon appartement, j'aurais plus de place pour décorer d'autres, mettre d'autres éléments.
C'est le cas de plein de monde. Si on n'en joue pas, lui redonner vie ou un rôle sur l'avant-scène est envisageable, avec une teinture ou une peinture, suggère la designer. La sortir avec le reste de la pièce est-il une fatalité? Pas forcément. On peut lui donner une couleur qui va complètement sortir du décor pour qu'on s'accroche sur l'instrument en entrant dans la pièce.
Donc, un beau piano orange.
Oui, si vous avez moyen d'acheter un piano à queue juste pour décorer. En revanche, si l'on compte utiliser l'instrument, l'acoustique de la pièce doit être prise en considération, s'empresse de souligner T.U. Poldma, professeur titulaire à l'École de design de l'Université de Montréal, designer d'intérieur depuis 36 ans et elle-même pianiste. Tout comme le piano, la guitare demeure l'un des instruments privilégiés pour nos décos. Acoustique, naturelle ou électrique, elle peut jouer sur plusieurs gammes. La guitare est un bel objet, très flexible et capable d'être disposé un peu n'importe où dans la maison. Ça, j'avais déjà essayé de convaincre ma conjointe de ça, que je pourrais avoir des guitares dans chaque pièce. Ça n'a pas
fonctionné. Ben pourtant, moi, je me souviens quand je cherchais un appartement l'année dernière, puis quand je voyais les photos, il y a un des appartements qui attirait toujours mon attention parce que sur une des photos, il y avait une guitare justement sur le mur. Puis ça, c'est beau, ça attire l'attention. Oui. C'est évidemment, peut-être s'il y en avait 8.
Mais quand il y en a 12 en rangée sur un mur,
oui, non, c'est ça, un peu mais là, en tout cas, ça attire l'attention.
Ça change la donne. Donc, Joël Lorrainville, le mordu de la cicorde, l'a bien compris et tire profit de sa collection d'une trentaine de modèles. Il en a disposé une partie dans la chambre de son fils de 1 an. 3 guitares électriques y ont été suspendues au mur, décalées au-dessus d'un petit meuble, avec quelques jouets et un ampli aux teintes boisées. Sur d'autres murs ont été également accrochés un ukulélé et un merlin. Je ne connaissais même pas, c'est une mini-guitare qui est fabriquée par le constructeur québécois Godin. D'accord. Vous connaissez les guitares Godin?
Je connais. Peut-être, vaguement.
Ouais, c'est québécois et c'est très, très connu à travers la planète maintenant. C'était planifié quand on a préparé la chambre du bébé. L'objectif, c'est de donner le goût à mon fils Edmond de jouer de la guitare, explique M. Rainville. J'espère qu'il ne les laisse pas juste accrochés là, qu'il les joue
un peu.
C'est
comme de la publicité subliminale, en quelque sorte.
Pour sortir des classiques, pourquoi ne pas viser les cuivres? Madame Lantier propose de les repeindre ou de les patiner. Elle a déjà vu un corps repeint en bleu électrique et placé au-dessus d'un manteau de foyer. On parle ici d'un corps d'instrument.
Mais c'est pas dans How I Met Your Mother, la série américaine assez culte que j'ai vue moi-même 2 fois. Il y a un corps, je ne sais pas si c'est un corps bleu, mais en tout cas, il y a un instrument bleu qui prend une place assez prépondérante dans la série.
Ça doit être inspiré.
Oui,
de
j'ai
ça.
L'impression que oui.
Aussi, pour une touche exotique, pourquoi ne pas se promener dans le bois? On parle des bois ici, bien entendu. C'est ce qu'Amine Hadoud, client de Véronique Lantier, a cherché à obtenir en exhibant un didgeridoo. Est-ce que vous avez déjà vu ça,
didgeridoo? Oui, le didgeridoo, c'est comme un grand tuyau dans lequel on souffle.
Sauf que j'ai de la misère à considérer ça comme un instrument de musique parce qu'on souffle là-dedans, ça fait des sons bizarres. Mais...
C'est pas dans les Andes qu'ils ont ça?
Non, c'est en Australie.
En Australie, ouais. Okay.
C'est un peu comme le ruin de... Non, le... Comment on appelle ça?
Je sais ce que tu veux dire. Bombarde? Ça sonne un peu, effectivement.
La guimbarde, c'est ça, c'est un peu... C'est ça, ça fait de la musique, mais c'est effectivement pas aussi élaboré que guitare ou un piano.
Non. Placés au mur, ils ont également la fonction de créer une division psychologique entre le salon et la cuisine. Et s'il existe une large palette versant dans l'exotisme, lutte arabe, mandoline, flûte chinoise, maracas, etc., le bois des instruments classiques a toujours un effet saisissant, comme les violons et violoncelles que l'on prendra éventuellement soin d'accorder aux boiseries des meubles aux alentours. moi, je l'accorderais tout simplement pour qu'il joue comme
ça. Oui, encore un jeu de mots intéressant. Voilà. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de mots dans cet article.
Gorge de jeux de mots. Souvent issus de l'artisanat, bien des instruments sont onéreux à l'achat. Mais il existe des solutions pour qui veut soigner sa déco sans se ruiner. Les petites annonces fourmillent de guitares, pianos et autres, souvent bradées, surtout s'ils sont inutilisables. On peut aussi jeter un coup d'œil chez les brocanteurs. De plus, pourquoi ne pas vérifier auprès de sa famille si un vieil instrument délaissé n'est pas en train de prendre la poussière au sous-sol depuis des décennies? Moi, les miens ne prennent pas de poussière.
Non,
je
c'est vous les utilisez. Bon.
Absolument.
Alors, merci beaucoup pour cet article. Merci. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et aux choix musicaux. Mm-hmm. Merci Serge Bradet, Daniel mm-hmm. Lachance. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite de passer une bonne semaine. À bientôt.
Bye.